Attention!
Isabelle, 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 on y va, Isabelle, Isabelle, la deuxième radio à froid, on y va, vous là, une conne, toi, et c'est parti, c'est parti, c'est parti! Tout le monde debout, ça tient!
Bonjour, bonsoir, c'est Idam et on se retrouve pour une nouvelle émission sur la compo musicale, la composition musicale assistée par ordinateur. L'invité du jour est Jonathan.
Bonjour.
Bonjour. On retrouve comme d'hab Evan à la console.
Bonjour.
Ursula.
Bonjour.
Nathan.
Bonjour.
Anouk.
Coucou.
Étienne.
Bonjour.
Thierry.
Salut.
Thomas.
Salut.
Et moi-même, tout, voilà. Donc, Thomas, je crois avoir entendu tout à l'heure que tu ne connaissais rien au sujet d'aujourd'hui. Et donc, Nathan va t'expliquer vite fait ce que c'est donc la MAO.
Non, je vais expliquer l'histoire de la MAO.
Ouais, bah dis aussi ce que c'est.
La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur, du coup. L'informatique et les machines électroniques ont ouvert à la musique des territoires immenses depuis le début du XXe siècle. Si aujourd'hui la musique assistée par ordinateur, dite MAO, a rendu des groupes mythiques, l'intelligence artificielle pourrait participer à faire entrer la musique dans une nouvelle ère. Changer l'électricité en musique, c'est à partir de la fin du XXIe siècle, la promesse de l'utilisation d'étranges machines sorties des laboratoires d'inventeurs qui devaient paraître à l'époque un peu fous. Peu à peu, les fous se sont transformés en précurseurs, les précurseurs en artistes, et parfois même les artistes munis de leurs machines à transformer cette force naturelle en son sont devenus des stars. C'est l'histoire de la musique électronique assistée par ordinateur. Un renversement complet durant les années 2000 marque l'avènement de l'ordinateur, qui auparavant minoritaire dans la musique, devient incontournable dans le processus créatif. Et tout le monde s'y essaye, bien aidé par un des papes démocratisation de l'informatique, Steve Jobs. Le 6 janvier 2004, il annonce la sortie de GarageBand lors d'une de ses célèbres conférences. T-Pain, Rihanna, Fall Out Boy et beaucoup d'autres artistes mondialement connus utiliseront ce logiciel. Ces outils rapprochent les artistes de leurs fans qui peuvent désormais composer des instruments pour les rappeurs. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais GarageBand, en fait, c'est que sur Mac. Enfin non, iOS.
Ouais. Oui.
Apple, voilà. Apple.
On est d'accord. Donc on va tout de suite passer à l'interview comme d'habitude. La première question qui est la plus simple, je pense, qui êtes-vous en fait?
Alors, merci de m'avoir invité déjà à Radio Impro. Jonathan Marty Wagner, je travaille pas très loin des studios de la radio puisque je loue mon studio au sein de la Radio House, là où vous diffusez votre émission. Et donc moi je suis compositeur de musique, c'est le métier que j'exerce tout le temps. Et en fait, comme son nom l'indique, ça revient juste à devoir composer des musiques pour diverses personnes. Ça peut être des artistes, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, le domaine du cinéma ou du théâtre, etc. Tout ce qui va nécessiter du contenu audio.
D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un a une question?
Comment faites-vous pour faire justement toutes ces musiques? Alors, le procédé pour faire les musiques?
Ouais, ça va être assez complexe et il n'y a pas de méthode clé et c'est pas quelque chose qu'on va apprendre. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à l'école. Ça va être propre à chacun, le processus créatif. De la même manière qu'il n'y aura aucun peintre qui va peindre de la même manière, le processus créatif, il est propre à chacun. Alors moi, comme je disais tout à l'heure en off, là juste avant l'émission, des fois, il peut se passer plusieurs heures avant que j'écrive la moindre note de musique, parce qu'il faut d'abord que, si en tout cas la musique est une commande d'un client, il faut d'abord que je comprenne ce que veut le client. Il faut que je cerne ses attentes. Donc, de la même manière que là, vous me posez des questions, je vais lui poser des questions pour savoir ce qu'il veut, là où il veut aller, sur quelle destination, quel support, est-ce que lui, il a déjà des préférences ou des goûts, des trucs. Je vais essayer d'en savoir le maximum sur lui et son projet en lui posant des questions. Et ensuite, je vais me lancer dans ma petite recherche. Alors souvent, je prends une feuille et un crayon, puis je note des éléments qui me semblent pertinents. Et ça, après, ça aiguille mon choix pour commencer à écrire la musique. Donc déjà, on en est là. Ça peut prendre pas mal de temps. Ça peut prendre 10 minutes comme 2-3 heures. Des fois, sur des projets, on va dire, de grande envergure. Le dernier très gros que j'ai fait, c'était une musique pour l'université de Reims, où là, c'était quand même quelque chose de très important qui nécessitait une grosse réflexion. Donc là, je crois même qu'il s'est passé une demi-journée avant que j'écrive la moindre note. Donc ensuite, ma technique à moi, elle est toute simple, elle est toute bête. Je prends un piano, tout simplement. Je prends le son d'un piano, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vais chercher soit les harmonies, c'est-à-dire les accords, soit les mélodies. Je vais essayer d'imbriquer le tout. Et une fois que je tiens un bon truc, eh ben je me lance dans la MAO, dans la musique assistée par ordinateur, en enregistrant divers instruments et en essayant de construire une musique. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui, je pense. Anouk, je crois que tu avais une question.
Quand vous écrivez la musique, à qui ou à quoi pensez-vous ?
À quoi est-ce que je pense ?
À la musique.
Je pense à essayer d'être à la hauteur. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu un métier de performance. On n'est pas très nombreux, mais c'est un métier où on va sans arrêt chercher à se dépasser. On veut toujours aller plus haut, on veut toujours faire mieux. Et ça me rappelle justement, j'en discutais avec toi, Étienne, la dernière fois. C'est quand on a fait la musique du podcast Les Templiers. Donc c'est un podcast qu'on préparait à la Radio House sur les chevaliers templiers. Le client avait choisi une musique sur YouTube, sur une chaîne qui faisait des musiques un peu ambiance à mi-chemin entre Seigneur des Anneaux et ambiance chevalier. Donc c'était vraiment une espèce de musique moyenâgeuse, mais quand même très entraînante, très blockbuster. Et je devais refaire un générique. Et puis en fait, j'ai fait 5 ou 6 musiques en tout. Et à chaque fois que j'en faisais une, je me disais, celle qu'a choisi le client, elle est mieux. Parce que ça aussi qui peut être un peu compliqué dans le métier, c'est que des fois on va être obligé de jongler avec les styles. On peut autant nous demander du hip-hop que du métal, que de la musique classique, et là pour le coup de la musique moyenâgeuse. Donc des fois il faut savoir s'adapter, c'est pas forcément simple. Et sur ce coup là quand j'avais fait plusieurs musiques, à chaque fois je me disais je ne suis pas à la hauteur, c'est pas encore le résultat que je veux, je suis pas arrivé à la qualité que je veux. Et donc ça amène à sans arrêt se remettre en question et pour essayer de recommencer, de se dépasser, de reprendre la copie à zéro pour enfin trouver le bon truc jusqu'au moment où j'ai débarqué dans le bureau d'Étienne en disant « ça y est, je pense que là, j'ai la bonne, là, j'ai fait mieux ». Donc, à quoi je pense ? Eh bien, je pense à être à la hauteur, à essayer de me dépasser, pour être content de moi le soir quand je rentre.
il faut, c'est très important.
Ouais.
Comment tu en es arrivé là, à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Du coup.
C'est un peu le hasard de la vie, puisque à la base, j'étais bouché.
Donc, ah oui, ça n'a rien à voir.
Ouais, je coupais la viande et je faisais des bons petits plats. Mais depuis tout petit, j'ai quand même été musicien. J'ai fait mon parcours au conservatoire et puis j'ai travaillé plusieurs instruments. J'ai eu plusieurs groupes. Et puis, il y a un moment, il y a eu un gros changement dans ma vie où j'ai un petit peu tout remis en question et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire, Jonathan ? Et là, c'était l'envie, c'était de vivre de ma musique. Alors, il y a plein de manières de vivre de sa musique. À cette époque-là, j'avais déjà des groupes et on faisait pas mal de petits concerts, mais c'est la composition qui s'est imposée à moi parce que c'est ce que je préfère par rapport au processus créatif, par rapport à l'expression de soi. Donc, je me suis lancé en tant que compositeur.
D'accord, merci.
Thomas ? J'avais une autre question aussi. Vous avez sorti combien de musiques ?
Alors, ça fait un moment que je n'ai pas compté. Mais il y a eu un moment, c'était dans les premières années, où je me souviens, je crois que ça devait faire 2 ans que j'avais commencé le métier de compositeur. Et j'avais dû racheter un disque dur sur l'ordinateur parce que j'avais plus de place de stockage. Et j'étais arrivé à 300 musiques en 2 ans. Donc ça fait quasiment une musique tous les 2 jours, un peu moins.
C'est beaucoup.
Ouais. Et du coup, maintenant, j'en fais moins parce qu'à ce moment-là aussi, je savais écrire la musique. Mais par exemple, si quelqu'un me disait, tiens, est-ce que tu peux me faire une musique jungle, une musique sur certains styles que je ne maîtrisais pas, est-ce que tu peux me faire une musique afrobeat, est-ce que tu peux me faire une musique de pop japonaise ? Il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire une musique un peu J-pop pour une autre émission Brainy GFM. Donc, il a fallu que j'apprenne... j'aime bien les mangas et j'écoute aussi pas mal de musique de manga, mais il a quand même fallu une certaine étude pour appréhender le style, comprendre comment ça fonctionne, les codes, les émotions qu'on véhicule. Et en fait, tout ça, c'est un petit peu mon apprentissage quotidien. C'est un métier où il y a plein de métiers où on ne cesse jamais d'apprendre. Et j'ai besoin de temps en temps de beaucoup composer, justement, quand j'appréhende un nouveau style, en me disant il faut que j'apprenne à maîtriser ce style. Et des fois, ça passe par certains instruments, l'apprentissage de certains instruments, ça peut passer par l'apprentissage de certaines méthodes de production, d'un mixage typique. Tu vois, si je te dis par exemple, bon, à part Thierry, vous êtes un petit peu jeune, mais si on prend le punk par exemple, qui a sévi au milieu des années 70, eh ben en fait, le son garage, le son dit d'enregistrement garage, à savoir petite production, a grandement participé à l'essor de ce genre. En fait, on voulait pas d'une production léchée d'un gros studio d'enregistrement. On voulait justement, pour pouvoir ajouter ce côté crade à la musique, ce côté ça vient de la rue, on voulait un son typique enregistré garage. Et chaque style de musique, comme ça, a ses petites particularités de par son histoire et fait que même en tant que compositeur, si tu connais la musique, il faut se plonger dans ces styles pour essayer de les appréhender et les connaître. Et toutes ces 300 musiques que j'ai fait, des fois c'était des commandes, mais des fois c'était de l'apprentissage.
Merci.
J'essaye d'être le plus précis possible.
Oui, t'inquiète. Quelqu'un a une autre question ?
Oui, j'ai une autre question. Combien vous gagnez par musique que vous faites ?
Avec Nathan, c'est toujours de l'argent.
C'est notre trésorier, la moula.
Ça va être très aléatoire, parce que dans la mesure où j'ai pas de patron, je peux fixer mes prix librement. Il y a les musiques que je fais pour les copains, où les copains ils ne me payent pas. Il y a les musiques, je vais pas pratiquer par exemple les mêmes prix quand je fais une musique pour un artiste, surtout si en plus il n'est pas signé en maison de disque et qu'il est indépendant et qu'entre guillemets ça sort de sa poche. Ça va être différent d'une entreprise par exemple qui va me commander une musique de pub. Par exemple, si je fais une musique pour un rappeur, ça va osciller entre 70 et 150 euros, ce qui sont à peu près les prix de tous mes concurrents. Et il y en a beaucoup en France. Tu peux trouver des musiques à 20 euros, à 30 euros, à 300, à 500. Là, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi d'à quel point tu es connu, de comment tu veux te vendre. Pour les entreprises, là, on est déjà sur des budgets plus conséquents. La publicité coûte cher et les entreprises ont plus de moyens. Et une bonne part de la rémunération, si ça t'intéresse, sur ces musiques d'entreprise, c'est ce qu'on appelle les cessions de droits. C'est-à-dire que quand je fais une musique pour une entreprise, dans la mesure où elle va s'en servir pour de la publicité et donc pour promouvoir son commerce et éventuellement gagner de l'argent, le compositeur a le droit, ce n'est pas obligatoire, de demander une compensation financière. Il n'y a aucune loi française qui détermine le montant de cette compensation financière. C'est de la pure négociation entre l'entreprise et le compositeur. Elle peut se décider de la part de la taille d'une entreprise. Si je dois faire une musique pour une boulangerie, j'aurais le culot de demander moins que si je faisais une musique pour un groupe. Par exemple, j'ai déjà fait des musiques pour des groupes qui regroupaient une dizaine, quinzaine d'entreprises. Et là, on est déjà sur des montants un peu plus gros, quoi, qui te permettent... J'ai envie de faire ma langue de bois parce qu'en fait, à chaque fois que je regarde une émission à la télé ou à la radio ou qu'on parle d'argent, les personnes ne répondent jamais. Et en fait, je me suis dit, tiens, si un jour ça m'arrive, je ferais exactement pareil. Non, je t'écoute. Pour te donner un chiffre, le plus gros que j'ai dû toucher en frais de session, ça devait être dans les 3000 euros. C'était pour 5-6 chansons pour une grosse boîte du coin en plus, auquel tu rajoutes à peu près 400-500 euros par musique. Il y en avait 4-5 à faire. Donc ça m'a permis de vivre 3 mois tranquille. Quoi.
Wagner, c'est pas le nom qui a mené à la vocation, non ?
Non. Non, c'est le nom qui m'a fait choisir espagnol en cinquième.
Ah, moi aussi j'ai pris espagnol là.
Ouais.
Je préfère l'allemand.
C'est bien.
Ah, allemand, c'est beau l'allemand.
C'est poétique.
Ouais, c'est poétique.
Vas-y, attends. Dis bonjour. Dis bonjour. On va se passer une musique.
Non,
en
mais
allemand.
Là on est en train de sortir du contexte. Stop. Anouk. Non, on s'en fiche.
Ouais,
de
on
l'allemand.
S'en fiche en fait.
Quelqu'un a une toute dernière question
Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question, ça.
Alors, vous pouvez me retrouver un petit peu partout. Bon, déjà, la radio, vous pouvez tout simplement frapper à la porte pour venir me voir. alors après, bon, moi, comme beaucoup de monde, comme beaucoup d'entreprises, je suis présent sur les réseaux. Donc déjà sur Google avec le site Google Business. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Alors à chaque fois, il faut juste taper Studio DMP Brive. Studio d'enregistrement Brive DMP. Normalement, ça trouve sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Le Facebook, c'est un peu un fourre-tout. L'Instagram, c'est principalement des photos du studio ou des compositions. Et le YouTube, c'est exclusivement certaines musiques que de temps en temps, quand j'ai le temps, je fais une vidéo où je montre tout simplement la musique à destination des entreprises.
D'accord.
Voilà. Ok.
Et sinon, vous pouvez me retrouver en cours aussi, parce que je suis obligé de vous en parler, ça. Mais en complément du métier de compositeur, je me suis lancé justement en tant que formateur en MAO. Donc, ça consiste en quoi ? Ça consiste en tout simplement des cours de musique. Il n'y a pas de cursus, l'élève vient avec le niveau qu'il a, et je détermine en fonction de là où il veut aller, entre guillemets, le cursus pour lui. Alors, est-ce qu'il lui faut de la théorie musicale ? Est-ce qu'il lui faut du solfège ? Est-ce qu'il lui faut... apprendre à se servir du logiciel, quel style il veut travailler. S'il me dit je veux apprendre à faire du reggaeton, on va travailler le reggaeton. S'il me dit je compose déjà, je suis déjà d'un niveau un peu avancé, mais mes mixages sont pas, j'arrive pas. Enfin, quand j'écoute les musiques à la radio, ça me paraît beaucoup plus puissant. Mon mixage il est un peu fade. Comment on fait ? Donc là on va apprendre les techniques de mixage, les techniques de mastering, etc. etc.
Ok, merci. On passe donc à la musique Wonderland de Neoni.
Hello, come in, welcome to the freak show. Take your seat, but don't look at the windows. The monsters like to jump out of the dark. Buckle up, cause this is just the start. Smoke and mirrors, never trust what you see. They feast on your fears, be careful what you believe. Best to just never let down your guard. This ride can be enough to stop your heart. Higher and higher we go. Up to the top, better look out below. Higher and higher we go. Up to the top, better look out. So this is Wonderland, where all your dreams come true. You gotta go get yours before they gon' get you. So this is Wonderland, where nothing's as it seems. They toss you up and smash you down to smithereens. So this is Wonderland. This is Wonderland, where all your dreams come true. You gotta go get yours before they come get you. So this is Wonderland, where nothing's as it seems. They toss you up and smash you down the... Yeah!
C'est terminé. Oui, nous non plus, on s'en est pas rendu compte.
Check.
On n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Tout va bien, tout se fait.
Bah, on parlait MAO en off.
On parlait pas du tout. On n'a jamais remarqué. Bon, bref, c'est pas le sujet. Thierry.
Oui.
Tu as un petit quiz à nous proposer.
Ouais, alors c'est un quiz qui n'était pas facile à faire pour poser des questions sur la MAO. Et j'ai l'impression que vous avez répondu déjà à pas mal de questions. En fait, le problème, c'est ça.
C'est pas grave, on va voir si on a une bonne mémoire.
Bon, alors Evan, c'est pas sûr, les autres, oui.
Comment
alors,
ça, moi?
Vous en avez parlé un tout petit peu. Je vais vous demander de citer, et l'invité peut jouer, trois logiciels de MAO.
Ableton, FL Studio, Cubase.
Oh putain, il est trop vite.
Est-ce que je crois qu'il est allé un peu vite.
Bon, Etienne valide, c'est bien.
Que valider, de toute façon.
J'aurais pu dire Ableton 9, ah, 10, 11.
Alors, si
vous voulez plus de précision, oui. Alors, Audacity, logiciel d'enregistrement, tout public. Là, sur ceux qui ont été cités, on arrive sur des logiciels dits professionnels. Non. Et on a cité trois gros noms de l'industrie musicale. Alors, Ableton, il me semble, c'est le leader mondial, entre guillemets, c'est le logiciel le plus utilisé, le plus vendu d'une société allemande. C'est celui que j'utilise personnellement. Pour son flux créatif, hein, on va dire que son gros point fort, c'est que en niveau création, possibilité, il peut te pousser à ton maximum. FL Studio, que tu as cité, logiciel de référence en beatmaking. Hein, on a parlé de MAO, le beatmaking, bah, enfin, le beatmaking, c'est le compositeur des musiques urbaines, rap, trap, hip-hop, etc. De très très gros et de très nombreux beatmakers sont sur FL Studio pour sa rapidité. Hein, très clairement, c'est un logiciel qui va très vite, qui offre de très grosses possibilités. C'est un logiciel jeune en plus, qui est très jeune et qui en très peu d'années a rattrapé son retard et aujourd'hui même se place en leader. Et Cubase, là aussi logiciel très professionnel qu'on retrouve dans beaucoup de studios. Cubase qui est très vieux, hein, qui est un des premières stations de travail musique, qui est ultra efficace, une usine à gaz, que ce soit en composition, en mixage, en arrangement, en mastering... Trois gros noms qui ont été cités, bravo.
Merci.
Alors, une autre question hyper technique. Citez-moi 10 compositeurs qui n'ont jamais utilisé la MAO.
Bach.
1.
Mozart.
2.
Beethoven.
Beethoven. 3.
Ouais, allez. 3, c'est bien, hein. Ouh là là.
Genre, ça doit être des gens
compositeurs musique ou théâtre, tout ça, ça marche aussi.
Des compositeurs qui n'ont jamais utilisé Molière. MAO.
Compositeur de théâtre.
C'est pas un théâtre. Compositeur de musique. Théâtre.
Moi, j'ai un guitariste, Slash.
Alors, Clash, c'est un groupe de rock, de punk, justement.
C'est un guitariste, mais je sais pas si...
Est-ce qu'on compte Clash?
Slash.
Safo.
On va remettre dans le contexte. Slash, Guns N' Roses, groupe de rock mythique. Ils ont mis leur musique sur vinyle, sur CD, ils sont partis en studio. Mais ils sont partis exclusivement pour enregistrer. Ce n'est pas... On va pas considérer ça comme de la musique assistée par ordinateur. Ils ont utilisé des instruments physiques, c'est-à-dire des instruments qu'on peut toucher, pas des instruments virtuels, des amplificateurs, des batteries, etc., pour enregistrer leur musique. Donc ce n'est pas vraiment de la MAO. Je dirais qu'on peut l'accepter.
Bon, ça fait 4.
Okay. Et du coup, ça ouvre la porte à plein d'autres artistes.
Safo, oui, on pourrait. Ouais.
Shawn Mendes.
C'était en antiquité quand même.
Joule.
Ah, bah alors là, c'est une mauvaise réponse.
Oui, parce que c'est que de l'autotune.
Et bah, mais oui, alors c'est que. Il faut surtout savoir qu'il fait tout seul en fait. Ouais. C'est-à-dire que. Europe. Le groupe Europe. Ok.
Ils font citer combien?
Scorpion.
Il y a Banach, je sais pas si on peut le mettre.
De quoi?
Nirvana.
Ah bah oui, en fait, on peut mettre tous les groupes, là, vous allez en avoir largement
Nirvana.
Plus de 10, là.
Nirvana, ouais. ACDC.
J'ai dit Nirvana, c'est bon.
Nirvana,
Kiss.
Il est
pas
là sur
Kiss.
Mon t-shirt.
Voilà, non mais pour être sûr, il faut citer tous les compositeurs classiques. Allez.
Ouais.
Classique.
Non, citer tous les groupes de rock mythique. Il en manque quelques-uns, mais...
Charles Aznavour.
Oui, mais voilà.
C'est fort possible.
Beethoven. Non, ça
a été. Ouais, bah, on en a 10. NTM.
Non, mais elle regarde sur son ordinateur.
Vivaldi. Alors...
Mais elle est en train de regarder sur son ordinateur.
Vivaldi.
Vivaldi, c'est bon, mais j'ai une question pour vous. J'ai une question
Chopin.
Pour vous. Est-ce que NTM, on peut le compter?
Ah, ok.
Alors, C'est assez intéressant l'époque où NTM est arrivé. C'est un petit peu après le premier essor du hip-hop. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on parle pas vraiment de MAO, bien qu'il y avait déjà certaines machines aujourd'hui qui sont utilisées tout le temps en MAO, notamment les fameux sampleurs. Et le propre de cette musique, en fait, quand le hip-hop est arrivé, c'était de prendre des rythmiques de funk ou de breakbeat, de les ralentir pour arriver à peu près au tempo qu'on connaît sur le hip-hop aujourd'hui, et de récupérer des sons de vinyle. On appelle ça faire du sampling, en fait récupérer des échantillons sonores sur des vinyles et de les mélanger entre eux pour faire aujourd'hui ce qu'on appelle des instrus. Alors, je sais pas si je l'ai déjà montré à certaines personnes, on a une platine vinyle ici et puis de temps en temps je le fais. C'est super rigolo comme processus créatif, en fait, de passer des heures et des heures à écouter des vinyles et puis un jour de se dire, tiens, j'adore ce petit bout de truc, genre il y a un tout petit bout de violon qui dure 3 secondes, je vais le prendre, je vais en faire une boucle, le rejouer sur le piano, rajouter une batterie, une basse et puis construire comme ça mon morceau hip-hop. Alors, du coup, NTM avait des compositeurs et des beatmakers qui ont travaillé pour le choix, ils ont travaillé avec plusieurs personnes. Donc oui, ça se rapproche vraiment de la MAO, on peut les citer. Eux, ce sont des auteurs et des rappeurs, mais dans la mesure où il y a de la composition sonore, on peut les mettre. IAM, dans IAM, il y a un gars qui est dans le groupe non officiellement, qui passe ses journées dans les médiathèques et les bibliothèques à essayer de choper des vinyles. Dans le milieu, on appelle ça diguer des vinyles, pour essayer de chercher comme ça le petit truc. À mettre sur sa musique. Alors il y a une vidéo très intéressante que je vous invite à regarder sur YouTube. Vous marquez Aznavour dans le hip-hop. Et en fait, il faut savoir que Aznavour, c'est l'artiste français qui a été, dont ses musiques ont été les plus utilisées dans le hip-hop américain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de musique qu'il a faite où on a pris des petits bouts parce qu'il était souvent entouré d'orchestres, truc. Et puis c'était souvent assez grave, assez dévot, assez sombre, et donc ça a été repris dans même Eminem par exemple a repris des bouts d'Aznavour dans ses musiques. Enfin, à la regarder, vous allez comprendre, c'est super intéressant.
Mais du coup, je me rappelle plus la question que je t'avais posée.
Je vais essayer de faire plus court.
De toute façon, Thierry, là il reste 2 minutes, donc
En deux mots, citez-moi un appareil analogique et un appareil qui fait de la musique numérique.
C'est quoi analogique?
Numérique,
analogique, c'est comment définirait l'analogique?
Une calculatrice.
Mais ça veut dire quoi analogique?
Un appareil qui sort un son analogique.
Un synthétiseur.
Synthétiseur, c'est un peu un fourre-tout. Parce que justement, on va avoir des synthétiseurs analogiques et des synthétiseurs numériques.
Ouais.
Un synthétiseur analogique.
Un synthétiseur numérique.
Ouais, sinon, par exemple, il y avait un ampli de guitare ou une guitare. Ça, c'est de l'analogique.
C'est des instruments, en gros.
Une platine vinyle, un phonographe.
Voilà, Un poste radio.
Ouais.
Et un numérique, du coup, un appareil qui fait du son numérique. Tu en as cité plusieurs, déjà.
Ouais, il y a le table de mixage numérique. Et c'est vrai, ouais. On a des tables de mixage numérique et analogique. Il y a un petit peu de tout.
Mais par exemple, la table de mixage que tu as, Evan, elle est numérique ou analogique?
Elle est numérique.
Ouais, 100%.
Ouais. 100%, voilà. Mais il en existe des analogiques.
Ouais.
Oui, par exemple, si...
Merci d'avoir fini ta phrase.
C'est... Ouais, voilà.
Ben voilà, c'était bien.
J'ai rien dit.
Eh bien, voilà. Il est 15h59. On est pile dans les temps.
Ah oui.
On va clore cette émission. Et je vais lancer Anouk maintenant. Tous les mercredis, on aura une toute petite chronique sur la mythologie grecque de 2 à 5 minutes. Et donc, Evan va la lancer. Je lance aussi Musique Cosmique présentée par Éléonore. Et les au revoir. Ça, juste au revoir. À la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée. Bon,
c'est quoi l'émission la semaine prochaine?
Je sais pas. Salut,
le rugby.
Dites au revoir, s'il vous plaît.
Merci, Chagou.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Adios,
merci.
Les amigos.
Radio Info.
Le live.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Europe qui faisait partie d'une histoire des mythologies grecques. Le rêve. Autrefois, dans une ville du Moyen-Orient, la ville de Sidon, vivait le roi Agénor avec sa femme Téléphassa. Elle était fille du Nil, le dieu fleuve, et son nom signifiait « celle qui brille de loin ». Agénor et Téléphassa avaient trois fils et une seule fille, la belle Europe, pour laquelle toute la famille avait un faible. Un soir, alors qu'Europe dormait tranquillement, elle vit en rêve deux personnes. La première était habillée de vêtements du pays et l'autre de vêtements étrangers. Elles se disputèrent en sa présence pour savoir qui l'emmènerait avec elles. Surprise, Europe leur demanda qui elles étaient. Celles-ci arrêtèrent alors de se quereller et lui répondirent « L'une d'elles a s'appelé Orient et l'autre Occident. » Europe réfléchit un petit moment et choisit de partir avec Occident. Le rêve se termina là et la belle Europe ouvrit les paupières. Les années passaient. Europe grandissait et devenait de plus en plus belle. C'était une jeune fille admirée de tous et dont tout le monde était fier. Quant au rêve qu'elle avait fait autrefois, son souvenir s'était estompé, comme se décolore le tissu bariolé qu'on laisse des jours et des jours au soleil. Le grand voyage. Par une belle journée de printemps où la nature était florissante et pleine de couleurs, Europe eut envie d'aller dans les bois ramasser des fleurs avec ses amis. Là, elle profitait pleinement de toute la beauté qui l'entourait. La nature tout entière était en fleurs et les oiseaux gazouillaient tout contents. Mais alors qu'elle jouait et chantait insouciante, le dieu Zeus la remarqua d'en haut. Elle lui parut si belle qu'il fut rempli d'amour. « Cette belle jeune fille doit devenir mienne », pensa-t-il. Et comme il était dieu, et même le chef de tous les dieux, et qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il était tout puissant, en quelques minutes à peine, il échafauda son plan pour la conquérir. Il se transforma en un beau taureau tout blanc et il s'approcha d'elle tout doucement, tête baissée. Dès qu'elle vit le bel animal, très calme en plus, Europe s'enthousiasma. Elle se mit à le caresser et elle lui tressa une couronne de fleurs de toutes les couleurs qu'elle lui mit sur la tête. Ensuite, trompée par la sérénité du taureau, elle n'hésita pas à monter sur son dos. Mais quelques minutes plus tard, le taureau tout blanc se mit à avancer, lentement, pour ne pas l'effrayer. Quand il se trouva devant la mer, toute plate, de Sidon, il commença à courir. À un certain moment, juste devant la mer, il sauta et se retrouva en train de galoper sur les eaux. Sur son dos, la belle Europe, étonnée et maintenant effrayée, pleurait, tenant d'une main la corne du taureau pour ne pas tomber, et de l'autre son vêtement qui volait au vent. Le taureau blanc galopait avec force et assurance. Quant à Europe, elle n'avait même pas le courage de se demander ce qui se passait. La mer était d'huile et cela grâce aux frères de Zeus, Poséidon, le dieu de la mer, et à sa femme Amphrédite qui, avec l'aide des tritons et des Nérèdes, empêchait de la mer de devenir mauvaise. Deux tritons transportaient même sur un coquillage la déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite, qui lançait sur la princesse Europe des jolies fleurs très odorantes. Merci de m'avoir écouté, au revoir et à la semaine prochaine.
Musique cosmique, orchestrée par Éléonore.
Une émission proposée par Radio Impro.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Léonore et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la première édition de Musique Cosmique. Eh oui. En fait, Eito m'a dit de choisir un nouveau concept d'émission et j'avais pas trop d'idées, alors je me suis inspirée de quelqu'un que j'aimerais tout de même créditer aujourd'hui. En fait, pour la petite histoire, quand j'allais au lycée le matin, j'avais environ une demi-heure de route et avec mon père, on adorait mettre de la musique. En fait, souvent on écoutait la vieille clé USB avec des chansons, c'était vraiment génial. En fait, on en écoutait souvent, et c'était souvent les mêmes en boucle, mais qu'est-ce qu'on était heureux, quoi. Et en fait, à chaque fois, on y appuyait sur suivant quand la musique zombie de The Cranberries, que j'aime pas du tout, passait. En fait, on aimait énormément écouter aussi la radio, écouter les nouvelles du jour, qui sont pas toujours bonnes. Enfin, entendre les mêmes choses, hein, Macron, l'inflation et les nouvelles résolutions n'ont rien de bon. Hein. Et pourtant, on écoutait quand même. Peut-être à la recherche d'une bonne nouvelle pour égayer notre journée. Bon, je pense que vous commencez à le savoir, mais moi, mon rêve, c'est de devenir journaliste. En fait, mon petit péché mignon, c'est d'écouter RTL en boucle. Vraiment, j'adore cette radio et j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec eux un jour. D'ailleurs, RTL, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à envoyer une relettre. Et en fait, c'est là que je tiens mon inspiration, justement. Donc là, je viens revenir dans le vif du sujet. En fait, le matin, sur la route du lycée, j'écoutais les pépites musicales d'Anthony Martin. Et je trouve ça vraiment, honnêtement, brillant. Et j'admire beaucoup pour ça, en fait. En fait, le concept de cette émission, elle est super simple. En fait, ce sont de petites anecdotes sur la musique, sur les chansons ou les chanteurs. Et on peut aussi y parler de chansons oubliées et celles qu'on sifflote sur le chemin du travail ou bien celles qu'on connaît tous par cœur. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mesdames et messieurs, la bienvenue dans l'émission Musique Cosmique. Étant une grande fan des Beatles, je ne pouvais pas ne pas commencer cette émission sans parler d'eux. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr sont pour moi un des groupes les plus talentueux du XXe siècle. Alors je vous propose d'écouter tout de suite Lucy in the Sky with Diamonds, la chanson sur laquelle j'aimerais faire ma chronique aujourd'hui. Vous venez d'écouter un extrait de Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles. C'est tout de suite la chronique sur cette chanson qui est bien plus qu'une simple chanson des Beatles. Donc en fait, une des rumeurs les mieux établies sur le groupe de Beatles, c'est en fait que la chanson Lucy in the Sky with Diamonds traiterait des drogues. Et oui, en particulier du LSD. Bon, il y a une autre rumeur qui dit que Paul serait mort, mais la rumeur principale, c'est bien celle des drogues. Et en fait, une des preuves du rapport de cette chanson avec la drogue serait les initiales de la chanson Lucy in the Sky with Diamonds égale LSD. En fait, cette croyance s'est ancrée tellement rapidement en fait, qu'elle aurait été interdite d'antenne à la BBC pour cette raison. Et d'ailleurs, ce ne fut pas la seule. Hein. En fait, l'article « Lucy in the Sky with Diamonds » sur Wikipédia English dit qu'elle n'a pas été bannie. Et en revanche, l'article « List of songs banned by the BBC », la liste des chansons interdites d'antenne par la BBC, sur le même Wikipédia English dit que oui. Et le site de la BBC dit que oui. Donc il est vraiment difficile de s'y retrouver sur cette chose. Bon, en fait, s'il n'est pas discutable que la chanson soit d'inspiration très psychédélique, parce que je rappelle que l'époque dans laquelle s'inscrit cette chanson n'est pas toute rose, hein, et que les membres des Beatles utilisaient récemment le LSD à cette période, l'explication de ce titre est tout autre, et elle est lourdement documentée, et il ne peut plus y avoir aucune ambiguïté, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'éclairer un peu nos chers auditeurs sur cette chanson et sur son histoire. En fait, il s'agit donc d'un dessin fait par le fils de John Lennon, Julian, à l'école, représentant une camarade de classe. En fait, ce dessin a été retrouvé dans les années 90, et l'histoire a été confirmée par Julian Lennon lui-même, donc pas d'inquiétude, c'est juste un hommage à un dessin d'enfant. Rien d'alarmant, et la BBC peut diffuser cette chanson en paix. Pour vous donner quelques informations plus précises sur cette chose, en fait, cette camarade de classe s'appelait Lucy O'Donnell, s'appelait parce que malheureusement elle est devenue Lucy Wooden et elle est décédée en 2009, à 46 ans d'un lupus. En fait, Julian Lennon s'est alors engagé dans des actions pour aider les recherches sur le lupus notamment, et la même année, en 2009, il a publié un CD-EP de 4 titres intitulé Lucy, en hommage à Lucy. En fait, pour terminer sur une anecdote plus sympathique, en fait, Lucy, l'australopithèque, trouvée en 1974 en Éthiopie, doit son nom à cette chanson. Donc voilà, c'était pour votre culture. Eh bien écoutez, moi j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc c'était Éléonore avec Musique Cosmique sur Radio Impro. En espérant vous revoir très bientôt, chers auditeurs.